Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un thème très important dans nos églises. Et c'est un thème qui est souvent un sujet, je ne vais pas dire de souffrance, mais qui n'est pas si simple que cela. Le service dans l'église, la manière dont je sers, et on va regarder ensemble une image que l'apôtre Paul nous a donné, une image très connue dans l'Épître aux Romains, l'image d'un corps, l'Église comme un corps. Et on va voir que cette image est particulièrement pertinente quant au sujet d'aujourd'hui. Pour ce faire, sans transition, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Alors l'Épître aux Romains se trouve assez facilement. Dans le Nouveau Testament, vous avez les quatre évangiles, le livre des Actes et l'épître aux Romains, c'est la première épître de Paul que l'on trouve. Et dans cette épître, au chapitre 12, l'apôtre va nous dire des choses très intéressantes en utilisant l'image du corps. Mais pour ce faire, on va d'abord regarder les deux premiers versets du chapitre 12 qui sont des versets assez connus, vous allez voir. « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Pourquoi on commence par ce texte-là? Parce que c'est ensuite que va suivre cette image du corps. Et cette introduction, appelons-la comme ça, est assez riche. Elle nous dit pas mal de choses. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. À cause de quoi? De son immense bonté à notre égard. De quoi est en train de parler l'apôtre Paul ici? En fait, pour répondre à cette question, il faut lire les chapitres précédents. En fait, dans les chapitres précédents de l'Épître, Paul a développé de manière magistrale, notamment dans les 8 premiers chapitres, ce qu'on appelle la doctrine de la justification. La justification, c'est la manière dont notre statut est passé pour Dieu, devant le tribunal divin, de condamner à justifier. Ça veut dire que nous ne sommes plus sous la condamnation, c'est un statut légal qui change. Et dans les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, Paul développe de manière magnifique, c'est la parole de Dieu, hein, ce changement de statut, ce qu'on appelle donc la justification. Et c'est de ça dont il est question, cette immense bonté. En fait, c'est Dieu qui nous fait changer de statut par l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Œuvre à notre égard, et c'est la raison pour laquelle nous devons offrir nos corps en sacrifice vivant, sain, et qui plaisent au Seigneur. En fait, comme bien souvent dans la grande majorité des épîtres de Paul, l'apôtre commence par un développé doctrinal, on va dire la théorie, mais je mets des gros guillemets, et puis ensuite il va développer la pratique en rapport avec ce qu'il vient de développer. Et donc là, nous entrons dans la partie pratique de l'épître aux Romains. Ça nous montre qu'il n'y a pas de bonne pratique sans théologie solide. Et oui, souvent on croit qu'on va faire les choses comme cela, mais en fait, quel en est le fondement? C'est ça la question. Ici, l'apôtre nous invite à rentrer dans la pratique en offrant nos corps en sacrifice vivant, sain, qui plaise à Dieu. À cause de quoi? À cause de ce qu'il a démontré juste avant. Ce changement de statut, la justification. Alors, comprenons bien, hein, c'est sûrement logique, mais je préfère quand même le rappeler, il ne s'agit pas de tuer quelqu'un quand on parle du sacrifice humain. Hein ? Vous l'aurez compris, et d'ailleurs, je le rappelle quand même, mais sous l'Ancienne Alliance, c'était une abomination aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a eu la conquête qui a été violente pour Canaan, parce que les habitants du pays sacrifiaient notamment leurs enfants à des divinités. Donc évidemment, ce n'est pas cela dont il est question quand il dit « Offrir nos corps en sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu », c'est logique, mais je préfère quand même le rappeler. Mais de quoi alors il est question quand on parle de ce sacrifice-là? Il s'agit de la consécration de notre personne, tant intérieure qu'extérieure. Autrement dit, on peut parler notamment de la vie sociale, de la relation que nous avons avec nos contemporains ou encore de nos diverses activités de vie. Est-ce que cela se voit, quelque chose que nous offrons au Seigneur? Il ne s'agit pas de faire pour faire, comme s'il s'agissait d'une tradition. Ça, on le trouve dans notre courant chrétien, mais ce n'est pas ce dont il est question, j'en suis convaincu. Nous ne faisons pas pour faire, mais il s'agit de bien agir avec intelligence et volonté en réponse à l'œuvre du Seigneur. Alors attention, hein, le texte le souligne, il ne s'agit pas d'une intelligence conforme à notre monde humain, hein, mais bien d'une intelligence qui est renouvelée par l'Esprit Saint. Alors Frank Binford Hall, qui est un évangéliste du XXe siècle, écrit à des chrétiens protestants, il dit ceci. « Ne soyons pas des chrétiens seulement réformés, mais soyons des chrétiens transformés de l'intérieur vers l'extérieur. » Et quand vous allez avoir prochainement la présentation de la vision de l'Église, retenez bien ceci. Transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Transformation du cœur vers l'extérieur, hein, c'est ce que dit la Bible. Hein. Garde ton cœur plutôt que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De l'intérieur vers l'extérieur. Autrement dit, ce n'est pas seulement de faire pour un apparat, montrer des choses. Non, c'est que ça vient de l'intérieur, ça vient du cœur en fait. On est en train de toucher à la source là, du service dans l'Église, de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est seulement dans ce cadre-là, celui de la transformation continuelle par l'Esprit Saint, que nous pourrons discerner la volonté de Dieu, qui est laquelle ? Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et pour ce faire, l'apôtre va utiliser une image très parlante, l'image d'un corps, un corps humain. Il va utiliser pour ce faire trois exhortations pour transformer notre état d'esprit, et c'est celle-ci que je nous invite à voir. Alors, évidemment, le texte est assez grand, donc on peut dire plein de choses, mais ce matin, on va se concentrer sur ces éléments-là. Première exhortation, avoir une sage appréciation de soi. Une sage appréciation de soi. La deuxième exhortation, c'est de se mettre au service des autres. Se mettre au service des autres. Et la troisième exhortation, celle d'aimer d'un amour sincère. Aimer d'un amour sincère. Regardons donc la suite de notre texte pour voir ces trois exhortations que nous allons voir ensemble. Et la première, avoir une sage appréciation de soi. Je vais lire donc les versets 3 à 16. Alors c'est un peu gros, j'essaie de condenser, mais j'espère que vous avez vos Bibles. Romains 12, verset 3. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Je redis juste cet élément parce qu'il va être important. Nous sommes tous et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que Dieu, dans sa bonté, nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt le malheureux le fasse avec joie. Que votre amour soit sincère. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. l'ardeur. Ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne me demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Et on va s'arrêter là. Avoir une sage appréciation de soi, c'est intéressant car Paul va commencer son image de corps, l'Église comme un corps, par le verset 3 où il parle d'être sage vis-à-vis de la considération que nous avons de nous-mêmes. Et il termine, verset 16, de nouveau par l'appréciation que nous avons de nous-mêmes. Ne vous prenez pas pour des sages. En fait, c'est le cadre, l'introduction et la conclusion qui encadrent tout le développé de l'apôtre Paul, et c'est pourquoi je l'ai mis en premier. L'apôtre Paul commence son exposé pratique par l'estimation que nous avons de nous-mêmes. Et en fait, c'est le départ, car notre volonté pour le service dépend notamment de l'appréciation que l'on a de soi. Et c'est pour ça que c'est la nécessité de commencer par une introspection. Se regarde à nous-mêmes. Ok, où est-ce que j'en suis? Quelles sont mes qualités, mes défauts? Comment est-ce que je peux servir le Seigneur? Et d'ailleurs, n'est-ce pas en général ce que l'on fait avant n'importe quelle activité? Si je demande à quelqu'un, peux-tu faire telle chose pour moi? Avant de répondre oui ou non, on va considérer très vite beaucoup d'éléments dans un ordre spécifique. Alors, combien de temps ça va me prendre? Et est-ce que j'ai ce temps? Est-ce que je sais faire ce que l'on me demande? Est-ce que ça compte pour moi? Ou bien est-ce que je m'en fiche un peu? Etc, etc. Paul vise ici en fait l'état d'esprit de se croire meilleur que ce que l'on est réellement. Et cela est juste dans le service, mais pas seulement. Il en va de même pour la tentation. « Ah, moi, c'est bon, j'ai une foi tellement solide, jamais je tomberai dans de telles tentations, dans de tels péchés, etc., etc. » Se croire trop fort par rapport à la tentation. Mais il y a peut-être là autre chose. Peut-être qu'en réalité, en pensant ça, vous êtes déjà tombé. L'orgueil. Ah, moi, je suis au-dessus de ces petites tentations où seuls les débutants tombent dedans. Mais n'oubliez pas une chose. Le diable a des millénaires d'expérience avec l'être humain. Et l'un des noms qu'on lui donne, c'est le malin. Et combien de fois, malheureusement, nous entendons que des chrétiens, parfois très médiatisés, très connus, sont tombés dans des choses tellement tristes, tellement graves parfois aussi. Ne vous prenez pas pour des sages. On peut servir dans l'Église avec pour un objectif caché de se mettre en avant. Et on trouve des arguments pour défendre cela. Mais si je ne le fais pas, qui va le faire? Personne ne le fera. Donc, je suis indispensable, car je suis le seul qui le fera. Je suis le seul capable de faire ceci ou cela. Mais si l'apôtre ne le dit pas, on trouve aussi l'autre penchant. L'Église a besoin de ça? Demande à un tel. C'est l'homme à tout faire. Répondre ainsi, c'est une manière de se déresponsabiliser. On ne prend pas la charge, on la donne à quelqu'un d'autre. Et parfois aussi, là encore, en sortant des arguments. « Ah, moi, j'ai pas de talent. Mais toi, tu es doué. Alors, fais-le. » Et une fois que tous les postes sont pourvus, ben, ça nous arrange bien. Merci à tous ceux qui servent. J'en profite pour le dire dans cette prédication. Car dans l'Église, il y a pas mal de gens qui servent. Par exemple, qui serait capable de me dire, et je pense qu'on ne sera pas nombreux, qui a fait le ménage dernièrement dans l'Église pour que le lieu soit propre et accueillant? Je pense que la plupart d'entre nous ne le savons pas. C'est un service de l'ombre, un service caché, un service qu'on ne met pas en avant. Eh bien, je profite ce matin de cette prédication pour remercier toutes celles et ceux qui servent, celles par exemple qui sont en ce moment en train de s'occuper des enfants pour leur enseigner les prémices de l'Évangile. On ne les voit pas toujours, mais ce sont des personnes qui sont à l'œuvre. Et je m'autorise, au nom du Conseil des Anciens, de remercier en ce moment toutes celles et ceux qui servent de près ou de loin notre Église ici, à Chambourcy. Mais une fois que tous les postes sont pourvus, ça nous arrange bien, ce système n'est pas viable sur la durée. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. On se retrouve très souvent, et ça je l'ai vu dans toutes les églises que j'ai fréquentées, avec un groupe de personnes qui fait tout. C'est le noyau de l'église qui est au four et au moulin et qui fait en sorte que l'église, elle tourne. Et parfois même en servant dans plusieurs activités à la fois, quand d'autres, je le dis, ne font pas grand-chose, voire rien du tout. Ils viennent consommer quand beaucoup sont au service. Mais n'y a-t-il de la place pour servir le royaume de Dieu uniquement pour ce petit groupe de personnes qui fait tout? Comme si les autres étaient de trop? Je ne le crois pas. L'Église comme un corps humain. Voici l'image que l'apôtre va utiliser. Et l'apôtre ne le dit pas ici, mais il le dit ailleurs, notamment dans Éphésiens. Décortiquons un petit peu ce corps. On va commencer par la tête. Qui est la tête du corps qu'est l'Église? Jésus-Christ, évidemment. Jésus-Christ et personne d'autre. Personne d'autre. Il n'y a pas de super serviteurs qui sont en même temps à la tête de l'Église. Seul le Seigneur est chef de son corps, seul le Seigneur est chef de son Église. C'est un élément essentiel, ça, car ça nous rappelle qui nous servons, de qui nous sommes au service. Non, vous n'êtes pas au service des diacres. Non, vous n'êtes pas au service des anciens. Non, vous n'êtes pas au service de Paul, le pasteur de l'Église. Vous êtes au service de Jésus-Christ. Et moi, je ne suis pas à votre service, je suis au service de Jésus-Christ. C'est lui qui est la tête. La semaine dernière, j'ai parlé d'être des disciples du Christ. Quand on est disciple du Christ, on est membre de son corps, qui est l'Église. Et tout ce que nous faisons doit être centré sur Christ. Comme dans un corps humain, les décisions descendent de la tête vers les membres. Alors, je ne suis pas un expert, et je ne sais pas s'il y a des médecins au milieu de nous, je n'ai pas vu Salomon en Aïla, mais comprenez ce que je veux dire. Le cerveau envoie les impulsions électriques vers les muscles pour qu'ils se mettent en mouvement. Et inversement, certaines informations comme nos sens, le toucher, l'odorat, la vue, la douleur, la chaleur, le froid, etc., remontent au cerveau par le système nerveux. En fait, c'est une relation verticale que nous avons avec la tête, Jésus-Christ. Comment elle se manifeste? Du cerveau vers les membres, nous, la parole de Dieu. Le Seigneur a une relation avec nous en nous donnant sa parole. Et l'inverse, des membres vers la tête, c'est quoi? C'est la prière. Voilà la relation qui nous lie à la tête et qui nous lie aussi entre nous. Je vais en parler après plus tard. Considérons donc à la fois ce que nous sommes, des êtres humains choisis et sauvés par grâce. Paul le développe dans les chapitres précédents, la justification, j'y reviens pas. Considérons donc à la fois ce que nous sommes, ces personnes-là, mais aussi qui nous servons, le Christ, le Fils de Dieu, mort pour nous sauver par grâce. Cette considération-là, cette double considération de notre personne et de notre Seigneur, elle est fondamentale pour la compréhension de notre place dans l'Église, au sein du peuple de Dieu. Puisque Christ est la tête, alors nous ne devons pas chercher à l'être à sa place. Et la meilleure manière d'avoir un ministère qui porte du fruit, ça se trouve dans la dépendance à Dieu et dans la juste humilité par rapport à notre statut de créature à qui Dieu fait grâce de le servir. Pierre dit la même chose dans sa première épître, chapitre 5, versets 5-6, notamment où il dit ce texte, « Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Cette considération-là, elle est nourrie par la parole de Dieu, mais aussi par l'action de l'Esprit-Saint. Dans nos cœurs, ça commence à l'intérieur et nous conduit à la sagesse par rapport à nous, la juste considération de nous-mêmes, à ce que nous sommes, à la manière dont nous nous considérons, autrement dit, à notre identité nouvelle en Jésus-Christ. Et c'est dans cette attitude de reconnaissance pour l'œuvre accomplie par le Fils de Dieu et dans la soumission que nous pouvons nous mettre au service de son royaume et de nos frères et sœurs. En fait, c'est là le cadre du service. Qui nous sommes, qui est-ce que l'on sert et d'où est-ce que ça sort. Maintenant qu'on a vu ça, on va regarder la deuxième exhortation, celle de se mettre au service des autres. Parlons maintenant des différents organes. Chaque organe dans le corps humain a son utilité. Alors, je sais qu'il y en a certains qui posent un peu question. L'appendicite, voilà, on ne sait pas trop à quoi ça sert, ce genre de choses. Mais d'une manière générale, on connaît la fonction du cœur, on connaît la fonction des poumons, on connaît la fonction des reins, on connaît la fonction du foie, on connaît la fonction de l'estomac, etc., etc. Tout est bien ordonné. Chaque organe a sa fonction, son rôle propre. Et c'est là qu'on voit que l'image de l'Église comme un corps, elle est parlante pour nous. Elle nous dit des choses de la manière dont on se place, nous, dans le corps. Ça apporte plusieurs éclairages sur ce que doit être l'Église du Christ. Elle permet à la fois d'exprimer l'unité, elle permet d'exprimer la diversité, la solidarité et aussi l'interdépendance des chrétiens. La relation que nous avons entre nous et la manière dont nous trouvons notre place dans l'Église, non pour nous, mais pour les autres et pour le Seigneur. L'unité, premièrement. Tous les organes sont liés entre eux par le système sanguin, par exemple, ou par le système nerveux ou d'autres choses, et par leur proximité dans le cadre du corps dans lequel ils évoluent. Il y a donc un lien de fait entre les différents organes, les différents membres du corps qui forment l'Église. Et cette unité, nous la devons à quoi ? Nous la devons, encore une fois, à Christ. Car c'est lui qui nous unit. Nous ne sommes pas ensemble unis parce qu'on s'entend bien ou parce que l'on s'apprécie, mais nous sommes unis parce que Dieu nous a fait venir à lui en nous donnant une seule et même espérance, celle à laquelle nous avons tous été appelés. C'est ce que dit Paul notamment en Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit en tous et qui est en tous. L'unité, c'est celle-ci, l'unité du corps que nous sommes, nous la devons à Christ parce qu'il nous a unis les uns les autres. Et ça éclaire aussi la manière dont on doit considérer les relations que nous avons. Il y a forcément des chrétiens avec qui on s'entend très bien et d'autres avec qui c'est un peu plus difficile. Mais celui qui nous unit, ce n'est pas la considération que nous avons de l'autre, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que notre regard, il doit être différent de la conception que nous avons de l'autre. On doit regarder l'autre avec les regards du Seigneur. L'autre, le Seigneur, l'a sauvé aussi. Il l'a uni à toi. Considère-le alors. Fournis les efforts mutuels, l'un envers l'autre, de la considération, l'unité. Mais aussi dans cette unité, la diversité. Dans un corps humain, à ma connaissance, il n'y a pas deux organes qui ont la même fonction. Alors oui, vous pouvez peut-être me parler des reins, mais en réalité, un rein et l'autre rein sont tous les deux un rein. Ce n'est pas un autre organe qui va faire la même chose et qu'on va appeler différemment. Comprenez ce que je veux dire. Dieu a vraiment bien fait les choses. Le corps humain est fabuleux et suscite encore et toujours l'admiration du corps médical. Alors, je ne veux pas parler au nom des médecins, mais moi, en tout cas, quand je regarde le fonctionnement du corps, les choses qui sont bien organisées, tout est bien calibré, chaque organe a sa fonction, etc., etc., c'est incroyablement beau. Quel architecte magnifique a construit un chef-d'œuvre pareil, le corps humain. C'est fabuleux, on se blesse, et hop, le corps va mettre tout en place pour combattre les petites bactéries et puis guérir, refermer la plaie. C'est fabuleux, le corps humain. Chaque élément est à sa place, chaque organe a son rôle, sa tâche spécifique. Et de même dans l'Église, chacun a reçu de Dieu un don ou plusieurs pour jouer un rôle au sein de ce corps qu'est l'Église. Je ne dis pas quelques-uns. Certains d'entre nous ont reçu, non, chacun d'entre nous, et j'insiste sur ce terme, chacun d'entre nous a reçu du Seigneur un don, quelque chose à apporter pour l'édification du corps qu'est l'Église. Je ne crois pas que l'Église du Seigneur comporte des personnes qui n'ont pas d'utilité pour le peuple de Dieu et pour l'avancée de son royaume. Chacun de nous a sa part, chacun de nous a sa contribution à apporter, avec le soutien de l'Esprit-Saint. Et j'aimerais ce matin nous encourager en ce sens. Avec ce que nous avons lu au verset 3, nous en concluons qu'il n'y a pas de petit service. Oui, moi je vise les grosses positions de l'Église. Non, il n'y a pas de petit service. Il y en a parfois qui se font dans l'ombre. Mais ce n'est pas parce que toi, tu ne l'as pas vu que le Seigneur, lui, ne l'a pas vu. Le Seigneur le voit comme une offrande qui lui est donnée. Dans l'Église, il y a plein de services. J'en cite quelques-uns. Je vais sûrement en oublier, vous ne vous sentez pas visé. On mettra etc. La louange, le ménage, l'entretien des locaux. Il n'y a pas longtemps, par exemple, il y a les services qui sont venus pour vérifier les extincteurs de l'église. Je crois que c'était la semaine dernière. Il y en a qui se sont déplacés pour cela, pour accueillir les spécialistes qui viennent vérifier, changer les extincteurs, etc. C'est un service pour l'église et on en a besoin. C'est un exemple que je donne. L'accueil, la communication, on est en train de finaliser un site internet, la technique, la sono, l'affichage que vous avez, etc. Les repas fraternels qu'on va remettre en route bientôt, on va dédier une équipe pour cela. Les groupes de maison aussi qui vont être à venir, etc., etc. Et les autres groupes, pensez l'école du dimanche, etc., etc. Et dans ces services se trouvent toutes sortes de ministères. Certains vont plutôt être dans l'organisation, certains vont plutôt être dans la disponibilité, certains vont plus être à l'aise pour faire certaines choses, etc., etc. L'apôtre Paul en cite quelques-uns. La prophétie en conformité avec notre foi commune, le service, alors le thème il est vague, la nouvelle Bible seconde, la colombe et la table réfèrent au diaconat, mais je pense qu'il est un peu plus large que cela. L'enseignement, l'encouragement, le don, la direction, et Pierre dans son épître en donne encore d'autres. Tous ces dons sont des faveurs que le Seigneur accorde à son corps qu'est l'Église. En fait, ce sont des cadeaux qu'il nous fait par grâce. On a vu l'unité, la diversité, regardons maintenant la solidarité. Il est intéressant de souligner qu'aucun des dons n'a pour objectif de servir son propre intérêt. On en a parlé dans le point précédent. En fait, le service, il existe pour les autres, il existe pour l'Église, il existe pour le Seigneur. Il n'existe pas pour nous, même si dans le service, le Seigneur nous fait grâce. N'est-ce pas d'ailleurs ces paroles du Seigneur qui sont rapportées en Actes 20, 35, qui connaît Actes 20, 35 ? Vous l'avez ou pas? Oh, ouais, c'est la femme du pasteur, ça triche. Ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pour servir dans l'Église, il faut le faire sans arrière-pensée. Il ne s'agit pas de rechercher son intérêt ou de se faire voir des autres pour obtenir des louanges qui ne doivent en fait revenir qu'à Dieu lui-même. Il s'agit de penser aux autres, d'être solidaire, de rechercher l'intérêt de mon frère et de ma sœur, de l'élever pour qu'il ou elle grandisse dans sa relation avec Dieu et qu'elle grandisse dans l'Église. Voici ce que l'on doit rechercher. L'interdépendance. Eh oui, les dons dans l'Église s'organisent dans une dépendance réciproque, une interdépendance. De la même manière que pour les organes, par exemple, le cœur a besoin des poumons. Et les poumons ont besoin du cœur pour envoyer le sang avec l'oxygène aux autres organes. Il y a une interdépendance. Il en est de même des dons dans l'Église. Une dépendance réciproque, une interdépendance. Il y a donc complémentarité dans les services dans l'Église. Nous sommes membres des uns des autres, membres d'une seule et même entité. Unité, mais diversité, solidarité et interdépendance. Voici comment nous devons vivre les uns envers les autres, notamment ce qui concerne le service. En considérant tout ce que nous venons de lire et d'entendre, en reconnaissant Christ comme la tête du corps dans lequel nous sommes les membres, comme d'un moteur, alors quel en est le carburant? Et Paul aborde au verset 9 ce sujet. Que votre amour soit sincère. Que votre amour soit sincère. Vous le savez, l'amour est le commandement le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit, Matthieu 22, 37, 39. Ce sont les plus importants commandements. Et c'est dans l'obéissance sincère à ces commandements que s'inscrit la mise en pratique des dons que Dieu nous a donnés. Nous mettons nos dons au service du royaume de Dieu et au service des autres parce que Dieu nous aime premièrement. Et c'est lui qui nous l'a manifesté. Hein. Il est mort à la croix pour nous sauver. Donc, parce que nous l'aimons en retour, mais aussi parce que nous aimons nos prochains. Et nos prochains, ça commence par qui? Nos frères et sœurs, là, qui sont dans l'assemblée. Premièrement. Jean le dit, hein, rapporte ces paroles du Seigneur, hein. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. L'amour dans le texte de Romains se manifeste de manière très pratique. Avoir le mal en horreur, s'attacher à de toute force, toutes ses forces au bien, être plein d'affection les uns pour les autres, être les premiers dans la manifestation de l'estime des autres et juste envers nous-mêmes, être plein d'ardeur sans être nonchalant et paresseux, avoir un état d'esprit bouillant, motivé, servir le Seigneur comme de bons serviteurs, se réjouir dans notre espérance, être plein de patience et d'endurance pendant l'épreuve, prier avec persévérance, être solidaire concernant les besoins et toujours prêt à pratiquer l'hospitalité, demander à Dieu qu'il bénisse ceux qui nous font du mal et non demander le mal, se réjouir avec ceux qui sont dans la joie mais aussi pleurer avec ceux qui pleurent, considérer les autres comme nous nous considérons nous-mêmes en recherchant l'humilité. Waouh ! Eh, le programme, il est béton, hein ? C'est solide, là, hein ? C'est pas facile. Hein ? C'est un beau programme, mais c'est un programme qui est difficile à mettre en pratique. Pour autant, c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, nous ne comptons pas sur nos propres forces. Mais nous comptons sur l'aide et sur le soutien de l'Esprit-Saint. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Plaçons notre confiance en ce Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Celui qui nous a donné des dons à chacun d'entre nous et qui nous appelle à les utiliser pour l'Évangile. En conclusion, L'image de l'Église comme d'un corps est une image qui est forte. Elle permet d'exprimer plusieurs composants pratiques de la vie que nous sommes appelés à vivre. L'unité, la diversité, la solidarité et l'interdépendance des chrétiens. Ce sont des réalités que nous devons rechercher et vivre dans l'Église. L'Église qui est le corps du Christ, le peuple que Dieu s'est constitué. Et nous sommes tous concernés, tous de manière individuelle, parce que nous sommes des membres de ce corps avec un rôle à jouer en utilisant les dons que le Seigneur nous a accordés dans sa grâce. Notre vocation individuelle s'inscrit dans une complémentarité mutuelle qui ne place pas certains au-dessus des autres, mais qui considère chacun au-dessus de soi avec humilité et amour. Humilité et amour. Car ce qui nous unit les uns aux autres et fait de nous un corps, c'est notre foi commune en Jésus-Christ, lui qui est mort, qui est ressuscité, ainsi que le baptême dans l'Esprit que nous avons reçu. Romains 8, verset 9. C'est l'Esprit de Dieu qui crée le corps du Christ en nous unissant au Seigneur les uns avec les autres. Voilà ce qu'est l'Église. Il n'y a donc aucune raison de se vanter de quoi que ce soit. Au contraire, bénissons le Seigneur de la grâce qu'il nous fait d'être membres du peuple de Dieu, membres de ce corps qu'il a constitué. Alors, le 7 juin prochain, nous aurons un temps particulier privilégié en Église, où normalement on devrait avoir un repas après et puis un temps l'après-midi ensemble. Le but de cette journée, ce sera le service dans l'Église. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une église et actuellement, il y a beaucoup d'éléments, on va dire des postes, mais je mets de gros guillemets, des services qui sont vacants. Et donc, on a besoin de vous pour que cette église, elle fonctionne. Et si cette église, elle veut aussi avoir des projets et mettre des choses en place, ces projets ne se feront pas s'il n'y a personne pour les prendre, pour s'en occuper et pour les mettre en place. Donc cette prédication, elle s'inscrit aussi dans ce cadre-là. Quelque part, je suis en train de vous préparer à cette réflexion. Cette réflexion qui doit commencer dans votre cœur. Ok, quelle est la place que j'occupe dans l'Église ? Est-ce que je viens juste consommer l'Église ? Je viens juste, je prends ce que j'ai à prendre, et voilà. Ou est-ce que je viens aussi m'impliquer dans cette Église ? Est-ce que je viens aussi proposer des services, mettre mes dons en œuvre pour les autres et pour le royaume du Seigneur. Voilà la question que vous devez vous poser à cet instant. Si vous êtes déjà dans le service, c'est peut-être l'occasion pour vous de réfléchir où est-ce que vous en êtes dans votre service. Est-ce que je le fais avec les bonnes intentions ? Comment est-ce que je peux m'améliorer dans ce service ? Non pour ma gloire personnelle, mais pour la gloire du Seigneur. Comment est-ce que je considère mon frère et ma sœur pour le servir, pour que lui, il soit bien ? Comment je donne plus de bonheur que j'en reçois ? Voici les questions auxquelles je cherche ce matin à vous sensibiliser. Quelle est ta place dans l'Église ? Quel est ton service ? Et si tu ne le sais pas, je ne sers pas parce que je ne sais pas dans quoi est-ce que je suis bon, ce que je peux apporter. N'hésite pas à venir te rapprocher de moi ou d'un ancien et on y réfléchira ensemble. On peut trouver des pistes, on peut réfléchir en commun ou même demander à tes frères et sœurs, là. J'aimerais bien en servir dans l'Église, mais je ne sais pas trop où. Tu me verrais bien où ? Dans quel service est-ce que tu me verrais ? N'hésitez pas à en parler. Il n'y a pas de petit service. Il n'y a pas de petit service. Alors, avec cette réflexion que nous venons d'avoir, que nous puissions sans cesse remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde, mais aussi qu'il nous aide à prendre notre place au sein de ce corps, pour le servir lui, ainsi que servir nos frères et sœurs dans la foi, avec les dons qu'il nous donne, dans l'humilité et dans la louange du sacrifice que nous lui offrons et que nous lui souhaitons agréable. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le prochain chant, Mon seul abri.